VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 12 décembre 2022. En direct de Washington, Idrissa Seydoulia. Les titres pour commencer. Le Maroc et la France, l'Argentine et la Croatie en demi-finale du Mondial 2022. Le président américain Joe Biden accueille cette semaine un sommet avec l'Afrique. Un Libyen soupçonné d'avoir assemblé et programmé la bombe de l'attentat de Lockerbie en 1988 au-dessus de l'Écosse, placé en détention aux États-Unis. Au Tchad, 139 personnes arrêtées lors de la manifestation meurtrière du 20 octobre ont été remises en liberté dimanche soir. Nord du Mali, l'ex-rébellion Touareg réclame une réunion d'urgence dans un lieu neutre. Amnesty International critique le Sénégal pour ses défaillances dans la gestion des enfants talibés. Tout de suite, le journal de la Coupe du Monde d'Eric Manirakidza. Au bout d'un tournoi riche en surprises, la Coupe du Monde s'achemine vers son dénouement au Qatar, où le rêve absolu d'atteindre et de gagner la finale programmée au stade de Lusail accapare les demi-finalistes avant Argentine-Croatie mardi et France-Maroc mercredi, Eric.
Première nation africaine à atteindre le dernier carré de la Coupe du Monde et invitée surprise de ses demi-finales, le Maroc y est parvenu au prix d'un courage admirable et d'une défense de fer, au fil d'un parcours redoutable qu'il a vu affronter en poule la Croatie vice-championne du monde et la Belgique troisième du précédent mondial, avant de se frotter avec succès à deux grandes puissances du football mondial, l'Espagne puis le Portugal, en phase à élimination directe. Les Marocains veulent croire que la portée historique de leur parcours et leur enthousiasme compenseront la fatigue des corps et des blessures. Amine Birouk, notre consultant sportif, sa correspondance depuis Doha au Qatar.
Ils seront à jamais les premiers. Eux, ce sont les joueurs de l'équipe du Maroc qui ont écrit ce samedi la plus belle page du football africain en devenant la première sélection de notre continent à atteindre le dernier carré de la Coupe du Monde depuis sa création en 1930. Opposés au Portugal, les poulains de Walid Regragui sont restés fidèles à leurs principes de jeu. Tout d'abord, rester compact en défense et repartir dès la récupération du ballon sur des transitions rapides. Ce plan de match leur a permis de surmonter les absences pour blessure des défenseurs Aguerd et Mazraoui avant le coup d'envoi, puis en cours de rencontre de leur capitaine Romain Saïs. Cette solidité défensive, alliée aux parades du portier Yassine Bounou, auront été d'un grand secours pendant les temps forts portugais. Des Lusitaniens surpris par la fougue marocaine et qui ont plié les Chines à la 42e minute de jeu sur un centre du latéral gauche du Wydad de Casablanca, Atiatallah, pour l'avant-centre Youssef El-Nesseri. Ce dernier, après une extension calculée à 2,87 m, smatchait victorieusement de la tête le ballon pour l'unique réalisation du match. Après la pause, malgré le coaching de Fernando Santos avec les entrées en jeu de Cristiano Ronaldo, Rafael Leao ou Vitinha, le mur défensif étanche du Maroc repoussait toute offensive adverse. Bounou, se chargeant aussi de soulager le nombre public acquis à la cause des Lions de l'Atlas au stade Toumama avec deux arrêts décisifs. Au coup de sifflet final, la détresse de CR7 contrastait avec la joie contagieuse des Marocains venus de Doha, du royaume chérifien et des quatre coins du globe. Le Maroc a écrit le plus beau chapitre de l'histoire de l'Afrique en Coupe du Monde. Son entraîneur Walid Regragui affirme que son équipe a encore faim de victoire et de reconnaissance. Et comme l'appétit vient toujours en mangeant, il ne serait pas étonnant que mercredi, le festin des Lions de l'Atlas en demi-finale puisse se poursuivre devant la France tenant du titre. Depuis Doha au Qatar, Amine Birouk pour la VO Afrique.
Des supporters du Maroc ont célébré leur qualification dans tout le monde arabe et en Europe.
On n'arrive pas à croire. Jusque maintenant, on ne croit même pas. Tu vois, on est encore dans un rêve. On va se réveiller le jour qu'on va prendre prendre cette coupe, on va le ramener avec nous au Maroc. Et franchement, c'est une fierté immense, immense, immense. Et franchement, waouh, c'est juste magnifique.
C'est une immense fierté, surtout qu'on appartient quand même à ces deux cultures, la France et le Maroc. Et de les voir en demi-finale, eh bien, c'est du pur bonheur. Après, voilà, on va faire la fête, on va aller sur les champs, on va s'amuser, on va... Voilà.
Le Maroc a donc brisé le plafond de verre et sa victoire a sans doute relativisé l'idée d'un changement total d'époque. Suivez le coup de sifflet de Jules Valentin Gouet.
Bonjour. Même s'il y avait un parfum sévillant dans la victoire du Maroc contre le Portugal, avec ses prestations décisives du gardien de but Assine Bounou et du buteur aérien de la soirée Youssef N'Dessery, la grande vedette de la formation marocaine a une fois de plus été toute l'équipe, pendue aux lèvres de son sélectionneur Walid Regragui, qui a su à nouveau écœurer l'adversaire du jour, encore favori sur le papier. Alors, il est peut-être temps de parler de ce qui fait la force de ce Maroc héroïque. Tout le monde sait que la politique d'industrialisation du football marocain interne commence à porter ses fruits, d'abord avec l'arrivée massive en équipe nationale de joueurs de qualité interchangeables qui assurent au sélectionneur Regragui une grande profondeur de banc, permettant de maintenir le même rythme de jeu jusqu'à la fin des rencontres et d'écœurer l'adversaire. Mais il y a aussi le choix tactique adapté au statut d'outsider que le Maroc assume sans complexe et dans la discipline, prenant tous les matchs les uns après les autres. Alors, à deux matchs de l'arrivée, ce Maroc qui évolue pratiquement à domicile n'a peut-être pas fini de nous surprendre. À bientôt.
Pour une première finale pour l'Afrique, les Lions de l'Atlas se verraient bien aller plus loin et peuvent compter sur le soutien de tout un pays, de tout le monde arabe et de toute l'Afrique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, le président américain Joe Biden accueille demain mardi ici à Washington les dirigeants africains lors d'un sommet censé revitaliser les relations avec le continent face à la concurrence de la Chine et de la Russie, Jean-Roger Bion.
Le sommet de 3 jours à Washington sera l'occasion d'annoncer de nouveaux investissements, de parler de sécurité alimentaire aggravée par la guerre en Ukraine, du changement climatique, mais aussi de démocratie et de gouvernance. Et peut-être surtout de démontrer que les États-Unis s'intéressent encore à l'Afrique, 8 ans après le premier sommet du genre en 2014, sous la présidence de Barack Obama. Le président américain soutient l'idée d'un siège pour l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU et il appellera lors du sommet à ce que l'Union africaine soit formellement représentée au G20, a indiqué un conseiller présidentiel. Lors d'une tournée en Afrique cet été, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait appelé à créer un véritable partenariat avec l'Afrique. Le sommet intervient dans le sillage d'une nouvelle stratégie Afrique dévoilée l'été dernier et annonçant une refonte de la politique des États-Unis en Afrique subsaharienne pour y contrer la présence chinoise et russe.
Un Libyen soupçonné d'avoir assemblé et programmé la bombe de l'attentat de Lockerbie en Écosse tuant 270 personnes en décembre 1988 a été placé en détention aux États-Unis. Abu Aguila Mohamed Massoud doit comparaître devant la justice américaine, ont indiqué hier les autorités américaines. Les détails avec Nanit Talani.
Abu Aguila Mohamed Massoud sera jugé par un tribunal de la capitale fédérale Washington, mais la date de sa comparution reste inconnue. Aucune précision n'a été donnée sur les circonstances entourant sa remise aux autorités américaines qui ont juste confirmé sa détention. En décembre 2020, 32 ans après le drame de Lockerbie, la justice américaine avait annoncé poursuivre Abu Aguila Mohamed Massoud, ancien membre des services de renseignement de Muammar Kadhafi et à l'époque détenu en Libye. L'attentat avait visé un vol transatlantique reliant Londres à New York. L'appareil, un Boeing 747 de la Pan Am, avait explosé le 21 décembre 1988 au-dessus du village écossais de Lockerbie, tuant les 259 passagers et membres d'équipage ainsi que 11 personnes au sol. Une seule personne a été condamnée pour cet attentat, le Libyen Abdelbassed Ali Mohamed Al-Mekraï, décédé en 2012. Il avait toujours clamé son innocence.
Au Tchad, 139 personnes arrêtées au cours d'une manifestation réprimée dans le sang le 20 octobre ont été remises en liberté dimanche soir après un mois et demi de détention. C'est ce qu'a annoncé le substitut du procureur de la République de N'Djamena. Au total, 80 d'entre elles ont écopé de 1 à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et les 50 autres ont été relaxées à l'issue d'un procès de masse de 401 personnes. Ce procès s'est tenu à huis clos fin novembre pendant 4 jours, sans avocat et sans médias indépendants, dans le bagne de Korotoro à 600 km au nord-est de N'Djamena, la capitale où les manifestants arrêtés avaient été massivement transférés. L'ex-rébellion Touareg malienne sollicite de l'Algérie et des autres médiateurs internationaux une réunion d'urgence dans un lieu neutre pour examiner l'accord pour la paix dans le nord du Mali, dont elle a dénoncé récemment la déliquescence. Précision de Marius Muhunga.
Pour sa requête, la coordination des mouvements de l'Azawad, CEMA, a adressé ce week-end une correspondance au ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra. Son président Al-Gabas Ag Antala y justifie l'urgence de la convocation d'une telle réunion par le besoin d'un examen décisif de la viabilité de l'accord signé en 2015. La CEMA avait dénoncé la déliquescence de cet accord et appelé ses garants internationaux à éviter une rupture définitive entre ces parties dans un communiqué publié vendredi à l'issue d'une réunion de son bureau exécutif tenue entre mercredi et vendredi à Kidal, son fief dans le nord du pays. Au lieu d'indépendance, l'accord que les rebelles ont signé en 2015 avec des groupes armés pro-gouvernementaux et l'État malien prévoit plus d'autonomie locale et l'intégration des combattants dans une armée dite reconstituée sous l'autorité de l'État. Son application reste fragmentaire. La coordination des mouvements des Azawad est une alliance des groupes à dominante Touareg, avec aussi une composante arabe qui a combattu l'État malien avant de signer avec lui l'accord de paix dit d'Alger en 2015.
Amnesty International critique l'État du Sénégal pour ses défaillances dans la lutte contre les abus sur des élèves d'écoles coraniques appelés talibés et leur exploitation financière. Dans un rapport publié ce lundi, l'ONG de défense des droits de l'homme appelle le gouvernement sénégalais à des actes forts pour les protéger, disant que des dizaines de milliers d'enfants talibés sont obligés de mendier, vivent dans des conditions insalubres et sont exposés à tous les dangers. D'autres détails avec Jacques Aristide.
Les talibés doivent également faire face aux mauvais traitements de la part de certains maîtres coraniques ou de leurs assistants. Des maîtres coraniques ont confirmé à Amnesty International que la mise de chaîne au pied est une pratique courante et appliquée en particulier aux enfants fugueurs pour entraver leurs déplacements, selon l'ONG. En janvier 2022, un talibé âgé de 10 ans est mort de blessures au quartier Lansar de la ville sainte de Touba après avoir été bastonné par son maître coranique, qui lui reprochait de ne pas avoir su sa leçon du jour, toujours selon Amnesty International. Elle dénonce également un système de traite d'êtres humains basé sur un recrutement dans le pays, mais aussi au niveau sous-régional. Des maîtres coraniques et enfants talibés étant issus de certains pays voisins comme la Gambie et la Guinée-Bissau. Le Sénégal s'est engagé à plusieurs reprises à mettre fin à la mendicité forcée des talibés et à améliorer les conditions de vie dans les daras, écoles coraniques. Des efforts ont été faits, mais ils demeurent insuffisants. Le gouvernement doit agir davantage sur cette problématique en concertation avec tous les acteurs concernés, a déclaré Samira Daoud, directrice régionale de l'ONG. Les autorités sénégalaises ont plusieurs fois mené des opérations de retrait de la rue des enfants, dont les talibés, diversement appréciés.
La vice-présidente grecque du Parlement européen, Eva Kaili, a été inculpée pour corruption dimanche à Bruxelles et écrouée dans l'enquête d'un juge belge portant sur de gros versements qu'aurait effectué le Qatar pour influencer des décisions au sein de cette grande institution de l'UE. Après avoir passé un peu plus de 25 jours dans l'espace et s'être rendu autour de la Lune, le vaisseau Orion de la NASA a atterri dimanche dans l'océan Pacifique, mettant avec succès un terme à la mission test Artemis 1.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, les évêques de l'Église catholique, dans leur traditionnel message de Noël intitulé « Marchons ensemble dans la vérité », ont fait ressortir les maux dont souffre, selon eux, le peuple depuis plus de 30 ans. Ils estiment que le mensonge des dirigeants plombe le pays et place le Tchad parmi les pays les plus pauvres de la planète, nous dit notre correspondant à N'Djamena, André Kotmadjingar.
Un message dans lequel les évêques du Tchad ont relevé les manquements des acteurs politiques qui ont confisqué et considéré le pouvoir comme un butin de guerre pendant une trentaine d'années. Ces hommes politiques, selon les prélats tchadiens, se livrent à des manipulations de la vérité, achat de conscience et non-respect des lois de la République au détriment de la population qui croupit dans la misère et toujours victime de représailles et de tueries. Ces hommes d'église estiment que les événements du 20 octobre dernier et les explications données par le gouvernement ne sont qu'une illustration de la manipulation de la vérité. Abbé Romain Guelbi est le secrétaire général de la conférence épiscopale du Tchad.
Cet événement constitue vraiment une plaie au sein de cette transition. Les différents appels que nous faisons, c'est pour amener les uns et les autres à faire à ce que cet événement ne puisse pas conduire le Tchad dans le chaos. Nous travaillons aussi dans nos paroisses à recenser tous ceux qui sont arrêtés arbitrairement, on ne trouve pas de traces jusqu'à maintenant, ou ceux qui sont déportés. Cela nous permettra, là où c'est le mensonge qui est mis au-dessus, nous chercherons justement à faire arrêter cela.
C'est dans ces conditions de méfiance, puisque la traque de toutes les voix discordantes dans la capitale et des provinces du pays continue de plus belle suite aux événements du 20 octobre, que le premier ministre de transition Saleh Kebzabo a installé les membres du comité technique d'appui chargé de mise en œuvre des résolutions du dialogue national inclusif et souverain. Saleh Kebzabo se félicite du dialogue national dit inclusif dont les conclusions posent des jalons pour la refondation du Tchad en faisant allusion au message des évêques du Tchad.
Le Tchad vit aujourd'hui un grand moment d'espérance. Il sort d'un grand dialogue caractérisé par l'inclusivité et la transparence qui a permis la confrontation des opinions des Tchadiens comme il est usage dans une démocratie. Nous devons être déterminés à traduire sans faiblesse ni ambiguïté ces résolutions légitimes dans les actes. Nous devons travailler sans relâche au retour de la confiance entre toutes les filles et tous les fils de notre pays, le Tchad.
Pour Abbé Romain Guelbi, secrétaire général de la conférence épiscopale du Tchad, le dialogue dont se targue le premier ministre est un échec cuisant, une dérive vidée de sa substance.
Le dialogue national sur lequel bien des esprits légitimes fondés ont été déçus par des intérêts particuliers égoïstes. Malheureusement, le caractère inclusif et souverain du dialogue n'a pas été respecté. De surcroît, la révision de la charte de transition n'a pas été à la hauteur des espérances du peuple tchadien.
Les évêques du Tchad invitent les gérants de la transition à mettre leurs compétences au service de la nation qui figure parmi les pays pauvres de la planète et non au service de leurs intérêts personnels et ceux de leur entourage. Aussi invitent-ils la communauté internationale et les pays amis à plus de cohérence et d'objectivité dans leur prise de décision sur la situation du Tchad. André Kodomadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena. C'est 93.1 FM au Tchad.
Au Gabon, c'est bientôt la fin du premier trimestre de l'année scolaire. Une année difficile et tronquée pour un système éducatif en panne. Plusieurs établissements scolaires sont frappés par une pénurie d'enseignants et les parents d'élèves redoutent des évaluations biaisées. Dans le même temps, plusieurs promotions d'enseignants sont depuis 5 ans en attente d'affectation ou de postes budgétaires. Un reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Marcelin Junior, 13 ans, est élève en classe de 5e dans un lycée public de Libreville. Depuis le début de l'année scolaire en septembre dernier, son établissement manque d'enseignants dans plusieurs matières.
Il manque de profs de maths et de profs d'anglais, qui sont plus disponibles pour les classes de 4e.
Et comment va se faire, par exemple, l'évaluation dans ces matières-là? Qu'est-ce qu'on vous dit?
On ne nous a rien dit pour le moment. On attend la fin du trimestre pour le calcul des moyennes.
Préoccupés par cette situation de manque d'enseignants, certains parents organisent des programmes de suivi scolaire à domicile pour leurs enfants. C'est le cas de Justine Mengue, agent public.
C'est un investissement. Donc, de savoir que l'enfant n'aura pas un professeur dans telle ou telle matière, c'est franchement compliqué. Et même s'il y a un professeur, on essaie d'appuyer parce que le professeur fait son travail, le parent à la maison aussi a pour obligation de venir appuyer avec des exemples, avec des exercices de maison.
Pour Claude Apeta, président d'une association de parents d'élèves, l'école à la maison ne suffit pas pour relever le niveau des enfants privés d'enseignants.
Les parents essaient de colmater les brèches, on essaie de se dire, bon, on va accompagner l'enfant, mais le souhait ici est que nous ayons tous les enseignants. Mais c'est regrettable parce qu'un enfant arrive en 6e, il n'a pas d'enseignant, il y en a qui progressent jusqu'en classe de 4e sans pourtant faire maths ou français. Vous voyez que c'est un véritable décalage lorsque on est en classe de 3e. À l'examen, on ne prend pas compte de ces manquements.
Plus de 1000 enseignants en attente d'affectation frappent pourtant aux portes de la fonction publique gabonaise. Ils sont issus des promotions 2015 et 2021. Ils réclament des matricules, des affectations et des mises en solde qui se font, selon eux, au compte-gouttes. Théophile Béga est l'un des membres de ce collectif en sitting devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale.
Certains d'entre nous n'ont toujours pas été soldés. Certains autres ne sont toujours pas affectés, quand bien même ils ont déjà passé plusieurs mois assis à la maison. Il y en a qui n'ont pas encore de matricule, ainsi de suite. Donc la situation est assez disparate et assez difficile pour l'ensemble des différentes professions.
Le besoin d'enseignants invite les membres du gouvernement à décloisonner les services. Les sources officielles indiquent que la régularisation des situations administratives des enseignants est en cours au ministère du Budget. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Le marchand d'armes Victor Bout, surnommé le marchand de mort, a fourni illégalement des armes à de nombreux protagonistes en Afrique dans les années 1990, notamment au Libéria et en Sierra Leone. Alors qu'il purgeait une peine de 25 ans dans une prison américaine, il a recouvré la liberté après avoir été échangé dans un aéroport d'Abu Dhabi contre la star américaine du basket Brittney Griner, qui était détenue dans une prison en Russie où elle avait été arrêtée en février. Eric Manirakidza a joint à Paris Sergei Djirnov, ancien agent du KGB, principal service de renseignement de l'ex-Union soviétique.
Quand on parle de Victor Bout, on le présente quand même comme un diable. Hein. Donc, il y a eu même un film qui a été tourné à Hollywood avec lui, sur lui, sur son histoire avec Nicolas Cage, qui est un film passionnant parce qu'on le présente quand même comme un aventurier. Il faut bien le dire que avant tout, c'est un commerçant. C'est un commerçant de génie. Je dis parfois que s'il se retrouvait dans l'enfer, il est capable d'organiser un trafic avec le diable en personne sur les âmes des pêcheurs, etc. Parce que c'est vraiment un génie de commerce. Il a commencé d'ailleurs, non pas par les armes, mais il a vendu des fleurs. Puis après, il s'est lancé dans les armes. Vous savez, s'il ne vendait pas ses armes aux groupes rebelles, voire terroristes, il fait exactement la même chose que fait le gouvernement des États-Unis, ou de la France, ou de la Russie.
Dans plusieurs pays africains, il a laissé des traces douloureuses.
Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, parce que vous avez entendu certainement, ou nos auditeurs ont entendu parler aussi de Yevgeny Prigogine, qui dirige le groupe qui s'appelle Wagner et qui fait actuellement sous Poutine exactement la même chose que Boots faisait, mais donc eux, ils ne vendent pas les armes, mais ils corrompent les dictateurs africains, ils s'installent avec leur armée privée, ils pillent les pays africains pour le compte de la Russie. Et d'ailleurs, ce qui est assez extraordinaire, vous retrouverez pas mal d'Africains qui sont très contents d'être amis de la Russie, malgré le fait que les Russes sont racistes, malgré le fait que les Russes pillent leur pays, mais tout simplement par opposition aux pays comme le vôtre, les États-Unis, ou comme la France, ou d'autres pays, ou comme l'Angleterre. Ils disent, voilà, il y a l'Occident qui était, disons, des pays oppressants en Afrique, et maintenant c'est la Russie qui les remplace, qui est très très bonne. Ah, d'ailleurs, la Russie n'est pas la seule, puisqu'il y a la Chine qui est beaucoup plus présente en Afrique que les Russes. C'est une sorte de dialectique dans la géopolitique qui fait qu'il y aura toujours des prédateurs, il y a toujours malheureusement des victimes.
Sergueï Jirnov, ancien agent du KGB, principal service de renseignement de l'ex-Union soviétique. L'artiste congolaise Tchala Mwana est morte samedi dernier à Kinshasa à l'âge de 64 ans. L'artiste de renommée internationale qu'on appelait la reine du Mutuashi était en studio pour la sortie prochaine de son nouvel album. Marius Muhunga nous brosse son portrait.
De son vrai nom, Elisabeth Tchala Mwana Mwidikai, Tchala Mwana est née le 13 mai 1958 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, au sud-est de la RDC. Elle commence sa carrière en 1977 comme danseuse, avant de se tourner quelques temps après vers le chant. Les Congolais vouaient à la chanteuse une grande affection et l'ont surnommée Mamou Nationale, ce qui signifie la mère de la nation, pour son combat en faveur des droits de femmes et des enfants au Parlement congolais. Tchala Mwana est considérée comme la reine du Mutuashi, une musique de danse traditionnelle de sa région natale du Kasaï, caractérisée par les jeux de hanches et de coups de rein, dont elle deviendra toute sa vie l'ambassadrice, comme l'explique le journaliste Kaki Akewa.
Tchala Mwana a pu valoriser les Mutuashi, puis ne chanter qu'en Tchiluba. Alors si vous allez à une fête et qu'on ne joue pas encore la musique Mutuashi, il faut dire que la fête n'est pas encore finie.
En 1997, elle retourne au pays après une vingtaine d'années passées en Europe. Avec le soutien du président Laurent Désiré Kabila, Tchala Mwana s'engage en politique et fonde l'association Refeco, regroupement des femmes congolaises. Elle siégera plus tard comme députée nationale entre 2000 et 2002. Elle devient ensuite présidente de la Ligue des femmes du PPRD, parti de l'ex-président Joseph Kabila, pour qui elle battra campagne pour les élections de 2006. En 2020, elle est mise en garde à vue par des services de renseignement de la RDC pour une chanson intitulée « Ingratitude », largement diffusée à l'époque sur les réseaux sociaux. Cette chanson a été interprétée par beaucoup comme une critique voilée du comportement du président Félix Tshisekedi envers son prédécesseur, Joseph Kabila. Elle s'expliquera plus tard que la chanson était destinée à une de ses chanteuses qu'il a quittée quelques années auparavant, pour faire une carrière solo. De son engagement citoyen, Belinda Luntadila, défenseuse des droits spécifiques de femmes, s'en souvient.
Donc c'est parmi les exemples des dames qui ont démontré qu'elles peuvent être multisectorielles, elles peuvent s'exprimer à travers plusieurs canaux, et nous avons vu qu'elle a participé dans la mobilisation patriotique de la population dans certaines de ses chansons.
Avec plus de 20 albums à son actif, Tchala Mwana a remporté plusieurs prix sur la scène nationale, continentale et mondiale, et a collaboré avec des artistes de renom comme Lokua Kanza, qui garde d'elle un souvenir d'une femme très gentille.
Que j'ai connue il y a très longtemps à Kinshasa. Et ensuite, vers les années 82-83, j'étais à Abidjan. Bibi Dance m'a demandé de faire des arrangements musicaux pour Mamou Tchala et lui. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de la connaître de plus près. Quelqu'un de très gentil, vraiment, je garde de très beaux souvenirs.
En juin 2020, une rumeur l'a donnée pour morte alors qu'elle avait plutôt été hospitalisée après avoir subi un accident vasculaire cérébral. À 64 ans, Mamou National tire sa révérence alors qu'elle était en studio pour la sortie de son nouvel album.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedouya, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnot. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.